RFI, Radio France Internationale, il est 23h ici à Paris et 21h en temps universel. Merci d'avoir choisi la Radio du Monde pour vous informer. Voici votre journal.
Jérôme Bastion.
À la une de cette édition, les dirigeants américains convient Volodymyr Zelensky à venir détailler à Washington sa stratégie pour l'utilisation d'armes américaines de longue portée en territoire russe, alors que le secrétaire d'État Anthony Blinken promet plus d'aide pour la défense de l'Ukraine. La première confrontation télévisée entre Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis. Les deux candidats se sont notamment affrontés au sujet de la guerre en Ukraine. La démocrate a raillé l'admiration supposée du républicain pour Vladimir Poutine. Le débat a d'ailleurs été suivi de près en Russie. Et puis l'économie mondiale tourne de plus en plus à double vitesse. Alors que les revenus des travailleurs sont globalement en baisse, ce sont les revenus du capital qui font un bond. Analyse et décryptage à suivre dans ce journal. En visite à Kiev ce mercredi, les chefs des diplomaties américaines et britanniques ont promis à l'Ukraine un soutien sans faille. Mais la principale question du moment est restée sans réponse. L'armée ukrainienne en difficulté sur le front et malgré une offensive surprise dans la région russe de Koursk, obtiendra-t-elle le feu vert pour frapper le territoire russe en profondeur avec les armes des alliés et notamment américaines? Élément de réponse à Schmidt.
Notre soutien ne faiblira pas, notre unité ne se brisera pas, a assuré Anthony Blinken, qui dit vouloir continuer à garantir que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement. À ses côtés, le tout nouveau ministre britannique David Lammy a promis de livrer d'ici la fin de l'année des centaines de missiles anti-aériens, des dizaines de milliers d'obus d'artillerie et des véhicules blindés. Des paroles rassurantes, certes, mais loin de satisfaire leur homologue ukrainien Andriy Sibiga, qui a une nouvelle fois réclamé la levée de toute restriction à l'utilisation d'armes américaines et britanniques contre des cibles légitimes en Russie. Des missiles de longue portée dont une partie a déjà été livrée par les Occidentaux, mais le feu vert pour les utiliser se fait attendre. Washington et ses alliés craignent une escalade qui pourrait mener à un conflit direct avec Moscou. Ce vendredi, le président américain Joe Biden doit rencontrer le premier ministre britannique Keir Starmer. La demande ukrainienne devrait à nouveau être discutée.
Et au-delà de la question des missiles à longue portée, Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide américaine de quelque 700 millions de dollars à l'Ukraine, tandis que David Lammy a lui déclaré que la Grande-Bretagne débloquait pour sa part quelque 600 millions de livres supplémentaires, soit 710 millions d'euros. La visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue la semaine prochaine à Washington. Volodymyr Zelensky qui réclame depuis des mois à ses alliés occidentaux non seulement plus d'armes mais aussi la possibilité d'utiliser ces armes sur le territoire russe pour frapper loin en Russie afin de limiter la capacité russe à attaquer le territoire ukrainien. Aux États-Unis, justement, après le débat télévisé phare entre Donald Trump et Kamala Harris la nuit dernière, que débat au cours duquel il a notamment été question du conflit ukrainien, voyons maintenant ce qu'en a pensé la Russie, justement. Les comptes rendus du premier face-à-face entre les deux candidats étaient à la une de tous les médias et amplement commentés dans le pays ce mercredi. Et pourtant, officiellement, à Moscou, au Kremlin, on feint l'indifférence à Anissa El-Jabri.
Premier commentaire affichant l'indifférence donnée ce mercredi matin sur Radio Sputnik par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
Imaginons un match entre deux boxeurs à bord du Titanic. Après le match, les gens débattent. À ton avis, lequel des deux a gagné? Mais quelle différence ça peut faire? 15 minutes après, le Titanic va de toute façon heurter l'iceberg.
Afficher son indifférence reste pourtant visiblement suffisamment important pour qu'à la mi-journée, le porte-parole porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, enfonce le clou.
Malheureusement, nous n'avons pas pu suivre les débats car ils se déroulaient en pleine nuit à l'heure de Moscou. Mais ce matin, nous avons vu et lu les reportages. Évidemment, nous avons remarqué que les deux candidats ont mentionné notre président et notre pays. C'est clair, les États-Unis dans leur ensemble, quels que soient les candidats, maintiennent une attitude hostile et négative envers notre pays.
Deux candidats renvoyés dos à dos. Évidemment, le fond de la pensée du pouvoir n'est pas celui-là, mais à chercher, par exemple, dans ce commentaire d'un politologue diffusé à une heure de grande écoute à la télévision, les propos du candidat républicain ont, semble-t-il, résonné très agréablement aux oreilles du Kremlin.
La position de Donald Trump semblait plus constructive. Il a compris que l'opération militaire spéciale ne sortait pas de nulle part. Il a précisé que la Russie avait ses propres raisons de prendre en ultime recours des mesures extrêmes. Voyons à quoi cela ressemblera s'il devient président.
Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Et puis la réaction maintenant du gouvernement haïtien qui dénonce les déclarations discriminatoires répétées hier donc par Donald Trump lors de son débat, laissant croire que des migrants haïtiens s'attaqueraient à des chiens ou des chats domestiques pour les manger. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que des compatriotes à l'étranger sont victimes de campagnes de désinformation, sont stigmatisés et déshumanisés pour servir des intérêts politiques électoraux, a souligné le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous rejetons fermement ces propos qui portent atteinte à la dignité de nos compatriotes et qui pourraient mettre en péril leur vie, ajoute le gouvernement haïtien dans un communiqué. Et puis cette parenthèse dans la campagne américaine, acrimonieuse pourtant, les candidats à la présidentielle Kamala Harris et Donald Trump ont observé une trêve éphémère donc pour saluer la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001. La vice-présidente et l'ancien chef d'État républicain se sont tenus ensemble aux côtés du président Biden lors d'une cérémonie à New York. Et puis, alors que les bourses mondiales atteignent presque chaque jour de nouveaux sommets, les actionnaires ont de quoi se frotter les mains. Jamais, en effet, les dividendes n'ont rapporté autant. C'est la conclusion de l'étude annuelle du gestionnaire d'actifs Janus Anderson. En 2023, près de 1700 milliards de dollars ont été distribués aux actionnaires par les grandes sociétés cotées dans le monde. Nicolas Feldman.
D'après le rapport, plus de 600 milliards de dollars de dividendes ont été reversés dans le monde aux actionnaires au deuxième trimestre, soit près de 6% de plus que par rapport à la même période l'année dernière. L'Europe reste le principal moteur de la croissance avec des records battus sur cette période en France, en Italie, en Suisse ou en Espagne. Par secteur, ce sont les banques, bien aidées par la hausse des taux d'intérêt, qui ont le plus rétribué leurs actionnaires. 2023 était déjà une année record avec 1660 milliards de dollars de dividendes redistribués. 1660 milliards de dollars, cela représente l'équivalent du PIB de la Corée du Sud. La semaine dernière, l'Organisation internationale du travail confirmait cette tendance. Les revenus du capital ont bel et bien explosé ces 20 dernières années, alors que dans le même temps, ceux des travailleurs ont baissé, ce qui contribue, notait l'étude, à creuser les inégalités dans le monde.
Et puis un mot de cinéma pour finir avec cette comédie intitulée Le procès du chien, où une avocate est amenée à défendre donc un petit toutou qui a mordu une femme au visage, Elisabeth Le Quéré.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Et si l'on faisait le procès d'un chien ? L'affaire n'a rien d'évident. Juridiquement, l'animal est considéré comme un bien meuble, autant dire à peine plus qu'un objet. Mais il en faudrait plus pour décourager Avril, avocate spécialisée dans les causes perdues. À partir d'une affaire authentique, Laetitia Doche signe une comédie décalée qui pose les bonnes questions.
Attention, toupie, toupie, toupie.
Le fait réel m'a inspirée pour partir effectivement dans le surréalisme, on va dire, donc faire le procès du chien. Et ça permettait de garder un ton, je ne sais pas si c'est comique, mais amusant, en posant effectivement des vraies questions sur le statut animal et sur, je crois, les exclus, même chez nous, des gens qui ne sont pas dans la norme. En fait, ça parle d'exploitation et de domination de l'autre.
Faut que je rentre dans la peau du chien.
avril, l'acrobate du Code civil va faire tourner la tête des juges et des experts pour convaincre le tribunal que Cody le chien mérite un procès en bonne et due forme. Ce faisant, Laetitia Doche signe une comédie réjouissante, assez maligne pour nous attendrir et nous suspendre à son sort.
Elisabeth Le Quéré, tout de suite vous retrouvez Radio Foot International. Il est 23h10 à Paris.